Paroles en musique. Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens. Ici Raymond Perron et Mac Wickfield, vos deux hôtes pour l'émission Paroles en musique, édition de ce matin. Nous sommes heureux d'être là, nous sommes heureux que vous y soyez également, et nous vous saluons bien sûr, hein, et nous vous souhaitons une bienvenue des plus cordiales et des plus chaleureuses. Je suis persuadé que ce sont là également vos propos, mon cher Mac.
Les mêmes exactement. Vous avez pris mes mots. Dans
je lisais, oui, je disais dans votre pensée, c'est mon petit côté prophétique. Oui.
Tout à fait ça.
Alors, on est toujours content d'être là parce que c'est intéressant, hein, d'étudier, d'abord de voir les paroles des hymnes, parce que tellement souvent, on les chante en pensant à ce qu'on va manger après le culte, ou encore un peu distraitement parce qu'on a vu quelque chose qui se passait dans l'église, ou c'est difficile, hein, de se concentrer sur ce que nous chantons. Nous sommes tellement habitués à être toujours devant des images, n'est-ce pas? Nous sommes au siècle de l'image, de la télévision, avec musique et toutes sortes d'images qui défile, que de s'arrêter et de concentrer sur des paroles seulement, ça prend une bonne discipline. Alors, je pense que c'est bien qu'on puisse ainsi s'arrêter et considérer plus attentivement le message que nous chantons, que cela puisse nous aider également, lorsqu'on va les rechanter, ces cantiques-là, à nous y concentrer et à se les approprier également, à les faire nôtres. Hein? Et en plus, lorsqu'on sait dans quel contexte ces chants-là ont été écrits, ben, me semble que ça prend encore davantage de vie. Ça fait incarner parce que ces gens-là chantent la parole de Dieu, mais à partir de leur propre expérience. Alors, mon cher Mac, vous avez préparé encore un menu musical que vous allez nous présenter, pour ne pas dire nous introduire là par intra-auriculaire, hein, de manière intra-auriculaire. Et qu'en est-il aujourd'hui?
D'accord. Aujourd'hui, nous allons regarder un chant, encore un autre chant de Charles Wesley. Il en a écrit pas mal. Et celui-là d'aujourd'hui, c'est « Jesus, Lover of My Soul ». Vous savez, Raymond, parfois, on ne veut pas, de toute façon, je parle pour moi, je veux pas tellement chanter des nouveaux, mais les anciens, on a tendance à les chanter, comme vous dites, de manière robotique un peu parfois. Mmh. Alors, ce chant a des paroles qui valent la peine d'écouter, d'entendre et de vivre aussi. C'est un cantique qui semble être un peu le cri plaintif d'une âme en détresse. Mmh. Alors, je vais vous traduire le chant avant de l'écouter une première fois, et ça va comme suit. « Jésus, toi qui aimes mon âme, laisse-moi courir en ton sein. » Pendant que les eaux grondent qui m'environnent, pendant que la tempête me presse, cache-moi, ô mon Sauveur, cache-moi jusqu'à ce que les orages de la vie soient passés. Guide-moi au havre en sécurité et reçois enfin mon âme. Je n'ai pas d'autre refuge, mon âme impuissante dépend de toi. Ne me laisse pas seul, soutiens-moi et réconforte-moi. Toute ma confiance repose en toi. Tout mon secours provient de toi. Couvre ma tête sans défense de l'ombre de ton aile. Tu es, ô Christ, tout ce que je désire. Je trouve plus que tout en toi. Soulève ceux qui sont tombés, encourage les faibles, guéris les malades et guide les aveugles. Ton nom est juste et saint. Je ne suis que l'injustice totale. Je suis faux et plein d'iniquité. Tu es plein de vérité et de grâce. La grâce généreuse se trouve auprès de toi, une grâce suffisante qui couvre tous mes péchés. Que cette grâce guérissante abonde. Rends-moi pur, garde-moi pur en mon intérieur. Tu es la fontaine de la vie. Laisse-moi boire librement de tes eaux. Jaillis en mon cœur et élève-moi vers l'éternité.
Vous savez, Mac, j'ai les paroles anglaises sous les yeux. Vous avez fait une traduction vraiment chef-d'œuvresque. Parce que c'est pas facile, hein? Non. C'est pas toujours facile. C'est un langage poétique. Comment rendre ça fidèlement? C'est tout un art et vous le faites fort bien.
Ce qu'on appelle une traduction dynamique.
Et voilà, les équivalences dynamiques, oui.
C'est ça.
Alors, nous allons écouter donc une première version.
Nous allons demander au London Philharmonic Choir de chanter une première version, version plutôt traditionnelle, de ce chant du cantique « Jesus, Lover of My Soul ». Voilà donc la version plutôt, comme j'ai dit, traditionnelle de ce chant « Jesus, Lover of My Soul ». Notre auteur aujourd'hui est parmi probablement les mieux connus dans l'hymnologie anglaise. Et comme j'avais dit, il s'agit bien sûr de Charles Wesley. Ce cantique figure parmi les quelques 6500 de ses ouvrages. Son frère John a rejeté ce cantique au début, quand Charles lui avait montré cela. Trop sentimental, disait-il.
Oui, il faut dire que John ne nous apparaît pas nécessairement comme le plus romantique et le plus sentimental des évangélistes.
C'est précisément pour cela qu'il l'a dit, je crois. Alors, le chant n'a pas vraiment trouvé un usage courant avant le décès de Charles. Mmh. Plusieurs récits existent concernant l'occasion où ce chant aurait été écrit, dont le mieux connu peut être celui qui voit Wesley caché sous une haie et en train de l'écrire, après avoir été tabassé par une foule en colère qui n'aimait pas tellement son ministère.
Mmh.
Un autre raconte l'histoire d'une tempête en mer où tout semblait perdu et il est dit que Charles, suite à un accostage en sécurité, a griffonné ses paroles bénissant la main, comme il écrit dans son journal, qui l'avait conduit à travers de tels labyrinthes. D'autres croient que les paroles reflètent seulement la vie d'un jeune homme, qui luttait pour trouver une paix avec Dieu avant sa conversion sous l'influence d'amis moraves à Aldersgate, mm-hmm. comme on sait bien, en oui. 1738.
Mm-hmm.
Dans son journal, on trouve les mots « L'Esprit de Dieu a chassé les ténèbres de mon incrédulité ». Auparavant, lui ainsi que son frère John avaient ce qu'ils appelaient une belle religion d'été.
Oui.
Le chant a connu diverses mises en musique, la plupart assez solennelles. Le prédicateur américain Henry Ward Beecher a été entièrement captivé par le message de ce chant et il l'appelait glorieux et puissant. Il aurait, disait-il, préféré écrire ce cantique que d'avoir la fortune de l'homme le plus riche à New York. Et c'est ce que Wesley avait exprimé en écrivant cela. « Tu es au Christ tout ce que je désire. Je trouve plus que tout en toi. »
Voilà. Et que c'est donc vrai. Et cet hymne-là, comme plusieurs autres d'ailleurs sur ce même thème, nous présente Jésus comme un abri, comme un refuge, comme une haute retraite. D'ailleurs, la parole de Dieu nous rapporte plusieurs événements où nous le voyons arriver, ce Dieu-là, à la rescousse des siens, et ces événements qui préfiguraient, en même temps, le salut que le Christ viendrait parfaitement accomplir. On n'a qu'à penser au récit du déluge et de l'arche, par exemple. On peut penser également au serpent d'airain, n'est-ce pas, et à tous ces événements préfigurateurs du grand salut que nous avons en Christ Jésus seul. Et en lisant les paroles de ce matin, de ce cantique, il y a toute une pléthore de versets qui nous viennent à l'esprit. Et entre autres, bien sûr, il y a ce verset du petit prophète Nahum, chapitre 1, verset 7, où nous lisons « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. » Et le mot « connaître » ici, « naître avec », »,« connaître » dans le sens de « aimer », »,« accorder sa faveur », n'est-ce pas ? Il est un refuge, et vous me dites que c'était la haie de Charles, ça ? C'était réfugié sous une haie pour écrire, mais c'était réfugié en Christ Jésus, bien sûr, pour son salut et pour sa sécurité ultime. Auriez-vous la gentillesse, Marc, de nous relire la première strophe, s'il vous plaît ?
Dans la première strophe, on lit comme suit, « Jésus, toi qui aimes mon âme, laisse-moi courir en ton sein. » Pendant que les eaux grondent qui m'environnent, pendant que la tempête me presse, cache-moi, ô mon sauveur, cache-moi jusqu'à ce que les orages de la vie soient passés. Guide-moi au havre en sécurité et reçois enfin mon âme.
Que c'est bien dit. On peut comprendre un peu effectivement la réaction de John Wesley. Il doit avoir d'ailleurs parfois certaines réactions aussi face au psalmiste. Parce qu'on retrouve également cette image d'une relation très, très intime avec le Seigneur. Parce que l'expression, effectivement, dans cette première strophe-là, fait référence à une grande intimité avec notre Sauveur. Et nous nous réfugions vraiment en Lui, de sorte que rien de nous dépasse. On est complètement caché en Lui. Notre protection, elle est totale. Alors, lorsque les eaux rugissantes nous assaillent, lorsque la tempête fait rage, nous invoquons la protection de notre Dieu et nous attendons sereinement la fin de l'orage. Vous savez ce qui me vient à l'esprit, moi, chaque fois que je vois un orage comme cela? Dans notre ancienne maison, à Notre-Dame des Laurentides, on avait des arbres tout juste derrière notre maison qui donnaient sur la fenêtre de notre chambre à coucher. Et une nuit, je ne dormais pas, et il ventait, comme on dit au Québec, à écorner les bœufs. Il ventait énormément.
On dit ça au Québec.
Oui. Et les oiseaux, j'entendais chanter les oiseaux, ce qui m'a fasciné. Et je me suis approché de la fenêtre, pour voir, mais qu'est-ce qu'ils font là, n'est-ce pas? En pleine tempête, à chanter. Et effectivement, ils se tenaient après les branches, ils étaient ballottés de toutes parts, et ils continuaient de chanter. C'est ça. C'est ainsi qu'on devrait réagir dans l'épreuve. On s'accroche à notre Sauveur et on continue de chanter ses louanges. Le psaume 32, versets 6 et 7. « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Ainsi, même lorsque dans ma vie, la navigation est périlleuse. Je sais que Dieu va me conduire au port désiré. Le beau psaume 107, versets 23 à 30, entre autres, « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur de grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. » Voyez-vous, la tempête, elle n'est pas agent libre. Elle est obéissante à Dieu. Elle obéit à la voix de Dieu. Et le psalmiste de poursuivre, « Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Deuxième strophe.
Je n'ai pas d'autre refuge. Mon âme impuissante dépend de toi. Ne me laisse pas seul. Soutiens-moi et réconforte-moi. Toute ma confiance repose en toi. Tout mon secours provient de toi. Couvre ma tête sans défense de l'ombre de ton aile.
Le Christ Jésus, le seul refuge. Non pas un refuge parmi tant d'autres, hein, mais l'unique refuge. Et ça, ça parle du caractère exclusif du christianisme. Il ne s'agit pas d'une religion parmi d'autres religions, comme on a tendance à le croire tellement souvent aujourd'hui, de sorte que, dit-on, si vous êtes sincère, votre salut est assuré. En fait, il ne s'agit même pas d'une religion, au sens de pratique religieuse, hein. Le tout du christianisme, c'est le Christ lui-même. La Bible se veut encore ici d'une clarté cristalline et ne laisse aucune ambiguïté. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut hors du Christ Jésus. Au livre des Actes, chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, sinon le nom de Jésus. » Et on sait que le nom de quelqu'un décrit sa personne et décrit également son œuvre, bibliquement. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Ben, c'est très simple. En tant qu'être humain, nous avons péché contre un Dieu infini, de sorte que nous méritons un jugement infini, qui demande une satisfaction infinie. Qui peut offrir à Dieu une satisfaction infinie, sinon le Dieu infini lui-même? C'est la raison pour laquelle seul le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu fait homme, peut apporter à Dieu cette satisfaction-là pour la simple raison qu'il est lui-même Dieu qui s'est fait homme. Seule la justice du Christ est acceptable devant Dieu. Et il nous l'a acquise par sa vie parfaite et par sa mort. Pas uniquement par sa mort, hein, parce que s'il avait fait uniquement l'expiation de nos péchés, on serait comme des disques vierges, on serait encore en danger, on serait pas plus juste, hein. Mais non, mais par sa vie parfaite, alors il nous acquiert la réconciliation par sa mort, et par sa vie parfaite, il a acquis une justice parfaite qui est mise à notre compte, qui nous est imputée lorsque nous venons à lui. Seule la justice du Christ, encore une fois, est acceptable devant Dieu. Seule la justice du Dieu fait homme. Alors, d'où les propos d'ailleurs de la troisième strophe, qui nous disent que le Christ est tout ce que je désire.
Tu es, ô Christ, tout ce que je désire. Je trouve plus que tout en toi. Soulève ceux qui sont tombés, encourage les faibles, guéris les malades et guide les aveugles. Ton nom est juste et saint. Je ne suis que l'injustice totale. Je suis faux et plein d'iniquité. Toi, tu es plein de vérité et de grâce.
On est assez loin de l'expression « l'homme est foncièrement bon », hein?
N'est-ce pas? Assez.
Oui. C'est là où on voit le caractère mutuellement exclusif, hein, du monde et du christianisme. Jésus est la réponse à tous les besoins des humains, de quel corps puisse-t-il être. Jésus sauve, hein, le mot « sozo » qui veut dire littéralement « rendre entier ». Tout cela est déjà réalisé au ciel et prend place par étapes ici-bas, ce que nous appelons communément les 3 P. Hein, nous sommes dans un premier temps délivrés de la punition du péché. Ça, c'est la justification. Nous sommes progressivement délivrés de la puissance du péché. C'est la sanctification. Et on insiste bien en Marc sur le caractère progressif. Hein, c'est progressif. C'est jamais aussi vite qu'on le voudrait. Mais ça se fait. Et souvent, l'Esprit du Seigneur travaille, œuvre dans des sphères. On n'en est pas toujours conscient parce que nous, on concentre sur certaines de nos bibites, là, si vous me passez l'expression, alors que le Seigneur, lui, peut travailler sur d'autres. Mais la chose est certaine, hein? Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Et le troisième P, c'est quoi donc? Ben oui, c'est délivrer de la présence même du péché lorsque nous serons dans la gloire. Dans la gloire, passez-moi la redondance, tout sera glorieux. Plus de péché, plus de maladie, plus de chagrin, plus de mort. car alors nos corps auront revêtu l'immortalité. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 53 à 57. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ?» Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, conjonction contrastive, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous la donne. C'est un don, hein? On n'a pas à l'acheter. Il nous la donne, la victoire en Jésus-Christ. Il l'a acquise pour nous. Et finalement, la quatrième strophe.
Il nous la donne, c'est cette grâce généreuse. La grâce généreuse se trouve auprès de toi. Une grâce suffisante qui couvre tous mes péchés. Que cette grâce guérissante abonde. Rends-moi pur, garde-moi pur en mon intérieur. Tu es la fontaine de la vie. Laisse-moi boire librement de tes eaux. Jaillis en mon cœur et élève-moi vers l'éternité.
On ne pouvait certainement pas avoir de meilleure conclusion. Christ, la fontaine de vie, qui jaillit dans le croyant par son Esprit Saint, qui l'arrose en constance, pour faire fleurir cette vie nouvelle qui lui a été impartie, et qui l'amènera jusqu'aux confins, n'est-ce pas, de l'éternité future. Mac, la vie chrétienne, c'est une vie extraordinaire, c'est un don absolument merveilleux, c'est un don indicible. Auriez-vous un message? Je vous mets sur le spot, là, comme on dit en grec, n'est-ce pas? Auriez-vous un message pour ceux qui ne seraient pas encore venus au Christ Jésus? Et vous nous passez ce message-là là, avant de nous présenter la dernière version que nous écouterons aujourd'hui.
Merci Raymond. Je dirais que Christ est toujours là. Il reste toujours là, les bras ouverts. Il nous attend. Cette grâce est disponible pour qui veut venir. Alors, j'inviterai ceux qui n'ont pas encore pris ce pas de venir, même aujourd'hui. Christ est là et il est prêt à vous recevoir. Il s'agit de lui dire que j'ai tellement besoin de lui que je ne peux pas vivre ma vie seule, que ma vie jusqu'à présent est un échec, de faire ce que j'ai fait moi-même, de lui dire cela et de dire à Jésus, mais prends cette vie. Et fais ce que moi je ne peux pas avec.
C'est ce qu'on appelle la repentance et la foi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, de dire Jésus lui-même, et je vous donnerai du repos. Amen. Et quelle version maintenant allons-nous écouter en conclusion? Avant, je vais le dire tout de suite. Je vais d'abord vous remercier pour votre contribution. Remercier également nos auditeurs d'avoir été là, puisque la dernière version que nous écoutons, c'est toujours celle-là qui met un terme à l'émission. On vous rappelle que ça revient en rediffusion à 17h30 cet après-midi. Et on vous convie aussi, bien sûr, à la prochaine. On vous souhaite un bon samedi, un bon jour du Seigneur et une bonne semaine qui va suivre en Jésus.
Alors voici le même cantique, Raymond, que nous avons écouté au début de l'émission, mais dans une présentation très différente de la première, une version plus contemporaine. C'est un groupe qui s'appelle Indelible Grace, qui va nous chanter cette fois-ci « Jesus, Lover of My Soul ».
Jesus, lover of my soul, let me to thy bosom fly. While the nearer waters roll, while the tempest still is high, hide me, oh, Savior, high till life's storm is past, safe into the haven, guide, receive my soul at last. shadow.